Salut les joueuses et salut les joueurs. Nous sommes le 28 juin 2016 et vous écoutez une interview spéciale de Proxy Jeux. Je suis Dédé Schutz et je suis accompagné de Père Castor. Salut Père Castor.
Salut Dédé Schutz.
Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir au micro Alain des éditions Blue Cooker. Salut.
Bonjour.
Merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibertnet.com. Bonjour Alain. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bah de rien. Un plaisir d'être là.
Bah, merci à toi. Donc, Blue Cooker, c'est une maison d'édition encore assez jeune. Tu peux nous parler un petit peu de cette maison d'édition ?
Tout à fait, je suis un jeune chiot de 3 ans.
Dans la fleur de l'âge, alors ?
Ah, ben, en chien, oui, ça fait. On multiplie par 7, je crois, donc ça fait 21. Ah, mince, alors, je suis à peine majeur, alors. Ah, bon. On va essayer de ne pas trop dire de bêtises, alors.
Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les différents titres que tu as déjà édités ?
Oui, c'est, il y en a tellement que c'est difficile. Mais pour le moment, on a édité 4 jeux. Le premier en 2014, c'était Medieval Academy. Un petit jeu de draft et de majorité. Créé par Nicolas Poncin et illustré par Pierrot. Qui a eu, ma foi, son petit succès, on va dire. Vu qu'il est toujours édité. Donc c'est déjà pas mal, 3 ans après... Déjà bien. L'année d'après, en 2014, il y a eu Casting, un jeu d'ambiance de Romaric Gallonier, illustré par Olivier Fanière. Et puis cette année, c'est fête, on se lâche, 2 jeux dans l'année.
2 d'un coup, quoi.
Ouais, quasiment.
Tu doubles la production.
Voilà. Ça va devenir exponentiel.
Et dans 10 ans, tu rachètes Asmodée, quoi.
Ah non, j'aurais déjà fait ça. Non, j'ai un plan de conquête du monde, voire de l'univers en 5 ans. Hein. C'est un truc, c'est carré. Hein.
Ah, c'est précis. Ouais. Hein.
Qu'est-ce que je disais ? Oui, cette année 2. Donc, le premier qui est sorti à Cannes 2016, qui était Meeple War, un jeu de Max Vallambois, illustré par Anne Hetzik, une jeune illustratrice de talent et auteur de talent, même si il est jeune aussi, remarque, hein, par rapport à moi, ils sont tous jeunes.
Oui, je vous renvoie vers nos chroniques de Cannes où on avait interviewé donc l'auteur et l'illustratrice.
Et le dernier qui est sorti pour le festival de Toulouse, l'alchimie du jeu, qui est Yes, un autre jeu d'ambiance de Romaric Gallonier et aussi illustré par Olivier Fanière.
Ça n'a rien à voir avec la pâtisserie qu'on mangeait quand on était enfant. Moi j'avais ça au goûter quand j'avais 6-8 ans, le Yes.
Yes au goûter ? Ah ben non, moi c'était plutôt bassement basé sur le gameplay, c'est que quand tu joues et que tu trouves un bon truc, tu fais « Yes !» Bon, le geste n'est pas du tout radiophonique, mais on peut l'imaginer.
On l'imagine bien.
Ok, et est-ce que tu peux nous parler des prochaines sorties ou des projets qui sont dans les cartons, s'ils ne sont pas encore confidentiels ?
Non, ils ne sont pas confidentiels, il y en a un qui est quasiment bientôt terminé, qui va s'appeler « Arg ». Un petit jeu.
C'est aussi un cri qu'on fait quand on joue, c'est ça ?
Aussi, ouais, c'est exactement, parce que là, plutôt, on t'a filé une crasse et tu le vis mal.
Donc tu te spécialises sur les jeux au titre en onomatopée.
Exactement, maintenant, on va arrêter d'être littéraire, on va pousser des grognements, juste des... Tu vois, c'est mon côté bestial qui ressort un peu.
Du cocker, bien sûr.
C'est ça. Non, en fait, le ARG... la ARG... est un acronyme pour une association très militante. C'est les Animals Revolt Against Human. Dans un anglais parfait, n'est-ce pas ? Comme vous l'avez... voilà. Et donc, c'est un petit jeu minimaliste de 24 cartes qui sortira probablement en janvier 2017. Qui est aussi de Romaric Gallonier, illustré par Anne Hetzik. Qui devient Romaric mon auteur maison avec 3 jeux sur 5.
On change pas une équipe qui gagne.
C'est ça. Mais non, mais ils font. Voilà. lui il fait des bons jeux, elle les illustre bien, donc au bout d'un moment, bah voilà.
Hein. On aurait tort de se priver. Et c'est quoi le principe de Arg en deux mots ?
Alors c'est un jeu de bluff et de déduction. De bluff parce que tu vas avoir, tu vas proposer des cartes et les gens vont pouvoir les refuser parce que j'ai bluffé. Mais de déduction parce que ces cartes, tu as la liste exhaustive de ces cartes, donc tu vas pouvoir déduire au fur et à mesure de la partie qu'est-ce que j'ai des chances de te proposer ou pas. Et voilà. Sinon c'est quasiment un jeu militant parce que c'est des animaux de laboratoire qui se sont échappés du laboratoire et qui veulent se venger des humains en faisant tout péter.
Voilà. Ils vont faire bouffer des pilules aux humains ou leur faire des piqûres ?
C'est plus violent que ça, tu vois. C'est, ils veulent carrément tout faire péter le labo, tout ça, quoi, tu vois.
Ouais, on voit des illustrations avec du feu, des bombes nucléaires et tout ça.
Des logos qui n'inspirent pas la confiance en tout cas.
Ouais, voilà. C'est vrai que c'est très peu radiophonique aussi de montrer des cartes de proto, mais bon.
On mettra des photos sur le site.
Voilà, ça aidera. Et sinon, les prochains eux, sont après celui-là, sont dans un état de développement mécanique qui fait qu'on ne va pas encore en parler parce que. Parce qu'on n'a pas du tout de date, de truc, on est les mêmes dans le cambouis, comme on dit.
Est-ce que tu t'imposes une ligne éditoriale en termes de mécanique ou de thème ? Bon, si on fait un petit peu le tour des différents jeux que tu as sortis, c'est un panel assez diversifié au final, que ce soit en termes de méca ou de thématique. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves qui est plus pertinent qu'une mécanique qui te tient plus à cœur ou une thématique que tu apprécies plus particulièrement, qui serait un peu un coup de cœur, hein ?
Alors pas du tout, moi j'ai pas de ligne éditoriale, j'ai plutôt une courbe éditoriale, tu vois, c'est un peu... Et elle va pas être basée sur une mécanique ou sur une thématique, mais plutôt sur le jeu en lui-même, c'est-à-dire que je cherche des jeux qui ont un fort gameplay, où tu ressens des émotions en jouant, n'est-ce pas ? Pour moi c'est ça le gameplay, parce qu'on sait jamais trop ce que c'est le gameplay. Alors pour moi c'est ça, voilà.
Puis c'est un terme anglais, alors il faut le traduire et savoir à quoi ça correspond.
En même temps, le cocker aussi, c'est assez anglais. Hein, donc, Mais moi, je parle très très mal anglais, donc voilà, on se débrouille. Donc avec un fond gameplay qui vont être accessibles, mais riches, qui vont s'adresser à un public assez large, qui va pour reprendre un terme anglais, du casual gamer, du joueur qui joue pas très souvent, mais quand même, jusqu'au joueur plus accro à sa dose toutes les semaines. Donc qui va présenter un intérêt pour ces deux types de publics, qui va être accessible de toutes les manières possibles.
Sur le site de Blue Cocker, on retrouve une section qui est dédiée aux illustrateurs. Et pour toi, c'est important la mise en avant des artistes sur un jeu ?
Oui, bah oui, les pauvres, tu vois, c'est des pauvres esclaves, donc il faut au moins parler d'eux. Non, mais un jeu, c'est un tout. C'est des mécaniques, mais c'est aussi un objet. Donc il y a un look, une illustration. Tant l'auteur, l'éditeur, que même le fabricant, à la limite, doit se mettre au service du jeu. Et donc un illustrateur va pouvoir servir à magnifier un gameplay par plus d'immersion ou juste par l'ambiance que donnent ces illustrations, ces choses comme ça. Donc oui, ça reste un élément de l'équipe.
Et c'est vrai que le jeu, la première chose qu'on envoie quand on a la boîte, c'est une illustration, quoi.
Plus. De base, tu vois. La seule chose que tu vois dans un jeu, normalement, si c'est bien mis en valeur, comme dans certaines boutiques près de chez nous, enfin près d'ici en tout cas, ça va être le facing, la couve, hein, donc le travail de l'illustrateur. Donc en une image... Tu dois à peu près tout dire sur le jeu. Tu vois, c'est très contraignant par rapport à d'autres médias. Tu dois dire quel style de jeu c'est, un peu quelle expérience ils vont vivre. Et tout ça, tu as juste un titre et une image. Tu vois. Donc c'est quand même balèze de faire passer tout ça dans une seule image. Donc la couve est un exercice compliqué.
Et pour toi, c'est important qu'un illustrateur ou une illustratrice soit un joueur à la base pour rentrer dans cette symbiose du processus éditorial ?
C'est pas forcément un joueur à la base. Ce que je veux, c'est qu'il joue à mes protos. C'est tout. C'est, même si lui, il est pas joueur, tu vois, mais il va falloir qu'il fasse au moins une partie. Ouais, sinon, Alors après, il y a plein de gens qui arrivent à bosser autrement. Hein. C'est juste moi qui dois avoir une tare quelque part. C'est que je n'arrive pas à bosser avec des gens qui n'ont pas joué au proto parce que je n'arrive pas à communiquer avec eux. Donc tous mes illustrateurs ont au moins fait une partie du proto qu'ils illustrent. Parce que sinon, je ne sais pas communiquer avec eux. Voilà.
Pour comprendre de quoi on parle, quoi, qu'on ait une même base.
Alors,
quoi.
Moi, je trouve que c'est un plus, parce qu'ils vont, pour pouvoir concourir à ce gameplay, je trouve que s'ils l'ont ressenti, souvent c'est mieux quand même. Mais aussi, je te dis, pour le travail de tous les jours, quand moi je vais leur expliquer des choses, pourquoi je veux que ça change, parce que ça va améliorer tel ou tel aspect du jeu. Si eux ils l'ont pas vu cet aspect, c'est beaucoup plus compliqué quoi, tu vois. C'est voilà.
Il faut que l'illustration elle intègre des éléments d'ergonomie en fait sur la mécanique.
Aussi mais pas que. L'ergonomie, d'ailleurs c'est pas forcément que l'illustrateur qui va la faire. Moi il se trouve que j'ai souvent des illustrateurs qui font aussi la maquette, donc ils sont aussi maquettistes. Mais sinon l'iconographie et l'ergonomie est surtout portée par le maquettiste. Mais pas que, c'est vraiment dans son style d'illustration, dans ce qu'il ou elle va faire, bah, il va concourir à l'ambiance du jeu, à tout un tas de choses, au gameplay, et certes l'ergonomie aussi, mais ça l'ergonomie c'est plus moi qui vais la juger, tu vois. Et puis ça c'est encore à la limite le plus facile à expliquer. Parce que tu vas lui dire, ah ben non, là, tu vois, quand ils vont jouer, ils vont pas bien lire ça. Ça, c'est concret, finalement. Tandis que le gameplay et l'ambiance, c'est vraiment très subjectif. Et très, donc, je pense qu'il faut qu'ils y aient joué pour qu'ils y jouent. Et puis après, on en discute pour voir s'ils ont déjà la même subjectivité que moi là-dessus, quoi.
Ouais, il faut que les illustrations elles permettent aussi d'exprimer le ressenti qu'on peut avoir en jouant au jeu en fait. Pour qu'on soit un peu porté par aussi l'illustration pour être embarqué dans le thème et dans la mécanique du jeu.
Exactement, ça peut servir à l'immersion et je te dis à magnifier les émotions que tu vas ressentir, même sur un jeu qui va avoir des illustrations presque abstraites ou quoi, c'est pas grave, c'est aussi un style d'émotion esthétique particulier, tu vois, c'est pas obligé d'avoir des tonnes de figurines et un décor de folie et plein de choses pour être immergé. Sinon il faut arrêter et faire que des jeux en réalité virtuelle avec un HTC Vibe et puis voilà, tu vois, ce sera le mieux pour l'immersion plutôt que des bouts de carton et des trucs, mais juste avec quelques illustrations bien dans l'esprit, tu peux avoir soit une plus grande immersion, soit faire rentrer naturellement les gens dans la chose, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire les gens quand ils découvrent le jeu? La première chose c'est déployer le matériel, l'installer, et c'est là-dessus, sur ces premiers regards qu'ils vont poser, qu'ils vont se projeter dans ce qui va leur arriver 5 minutes après, quoi. Tu vois? Donc
souvent quand on dépunche un jeu, on peut être amené déjà à s'imaginer quelles sont les futures expériences qu'on va vivre en fait lors des parties. Ouais.
Exactement.
Donc lors du week-end proxy jeu, on a enregistré donc un épisode avec nos chroniqueurs
Et des joueurs aussi.
Et des joueurs et qui ont donné leur ressenti et donc on a parlé de Meeple-War et un chroniqueur a parlé du matériel. Enfin c'est un joueur, nos auditeurs qu'on avait invité qui a parlé du matériel et qui a dit que le matériel était, je cite, médiocre. Du coup, tu nous as fait un message sur un commentaire sur notre site, et nous on t'a proposé donc de venir ici pour, enfin on t'a chopé au passage hein, surtout, pour que tu puisses nous en dire un peu plus, parce que voilà, pour expliquer un peu ton point de vue quoi.
Ben moi j'ai toujours trouvé que il y a deux manières de parler d'un jeu. soit tu donnes ton avis, c'est-à-dire ton ressenti sur le jeu, et voilà, donc ça c'est très subjectif, et puis tu dis ça m'a plu, ça m'a pas plu, tu peux à la limite essayer de dire pourquoi, d'après toi, ça t'a plu ou ça t'a pas plu, parce que voilà, de le creuser un peu, de l'expliciter. Soit tu donnes un jugement sur le jeu, donc tu fais une critique du jeu. Par exemple, ce jeu est de qualité médiocre. Et dans ce cas-là, ben, il faut l'argumenter derrière et faire un boulot de critique, quoi. Un boulot professionnel de critique. Ben là, il se trouve que c'était pas le cas parce que voilà, lui, il essayait d'exprimer son ressenti en mettant un jugement et en argumentant derrière de manière que j'ai trouvé, moi, en tout cas, assez légère. Ce jeu est médiocre et de qualité médiocre parce que les tuiles sont trop petites. Alors, il aurait pu dire tout ce qu'il voulait à côté, ou pareil, c'était la formulation qui, pour moi, était pas bonne. Si tu veux dire ça, tu dis, pour moi, j'aurais préféré avoir un matériel plus luxueux. Ce qui me fait dire ça, c'est par exemple que j'ai trouvé les tuiles trop fines, tu vois. Aucun souci avec ça. Les gens ont un ressenti et tu ne peux pas juger leur ressenti. C'est subjectif par essence, tu vois. Donc voilà, mais en fait c'est plus une remarque sur les joueurs de maintenant qui sont plutôt à donner un avis, qui a un jugement, plutôt que de juste dire leur ressenti de partie, quoi. Tu vois, c'est, voilà.
Mis à part son voilà, le terme qu'il a utilisé sur le matériel, il a beaucoup apprécié le jeu en termes de mécanique. Hein. C'est...
Je n'en doute pas, c'est pas. Puis même, il l'aurait pas apprécié, c'était pareil. Ou même, comme j'en parlais tout à l'heure, il m'aurait dit ce matériel est luxueux, ça aurait été un jugement aussi. Alors, je l'aurais peut-être pas relevé parce que c'était en ma faveur et qu'on est tous humains, mais objectivement, si j'étais carré-carré, j'aurais dû faire le même commentaire en disant non. Tu as trouvé ce matériel qui te convenait, mais tu n'en fais pas un jugement. Tu vois, c'est juste ça. Pas tellement plus, mais... Et après, ça a un peu dérivé sur le fait que à l'heure actuelle, les gens sont de plus en plus mal habitués. Alors, c'est peut-être dû au Kickstarter ou autre chose, mais on commence à voir des jeux qui ont du matériel effectivement de plus en plus luxueux dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que tu vends du matériel pour vendre du matériel, en fait, et que les gens disent hey, c'est super.
Mais si c'est juste pour faire augmenter le prix de la boîte, c'est pas. Des boîtes.
Des boîtes, puisque t'as les add-ons qui viennent avec.
C'est ça. Quand tu vois, maintenant, tu peux mettre plusieurs centaines d'euros dans un jeu avec ces add-ons, ces choses comme ça, moi, c'est pas ma philo d'éditer des jeux comme ça. Quand je dis que je veux rendre des jeux accessibles, c'est aussi de les rendre accessibles par le prix. Je pense que mettre sur Meeple War, j'aurais pu mettre des figurines, au lieu de l'appeler Meeple War, faire une guerre quelconque et y mettre des figurines superbes, mettre des tuiles de 3 mm ou 5 au lieu de 1,5. Mais qu'est-ce que ça aurait vraiment, est-ce que ça aurait vraiment apporté quelque chose au gameplay? Oui, certains auraient vu un côté esthétique, mais d'un autre côté, j'aurais bloqué l'accès à ce jeu à plein de gens.
Est-ce qu'au final, en prenant une thématique comme la guerre des meeples, justement, ça n'a pas rajouté un grain d'originalité qui permet de se démarquer d'un, entre guillemets, d'un simple jeu d'affrontement sur une thématique qu'on a déjà vue et revue dans d'autres boîtes?
Oui, c'est vrai que des jeux d'affrontement, tu peux en trouver partout. C'est un thème qui est aussi vieux que le jeu, quoi. Tu vois, même si tu prends les échecs, c'est un jeu d'affrontement. Bon, très stylisé, on va dire, mais au départ, c'est ça, quoi. C'est quand même. Donc oui, nous, ça nous a fait rire de faire se battre nos meeples qui ont été. Bon, le terme vient au départ de Carcassonne, tu vois. Et de leur faire avoir une vie, comme à l'époque il y avait eu Marcel le Meeple qui avait fait le tour du monde, où chacun prenait des photos. Enfin voilà, de faire vivre un peu sur un côté décalé certains de nos pions préférés.
Alors si on reparle un peu plus du jeu Meeple-Loire, c'est quand même un jeu un petit peu violent, comme on va quand même se taper sur la gueule. Mais pour autant, on est quand même dans un univers sympa, coloré. Et moi, ce que j'ai apprécié dans le jeu, c'est que lorsqu'on va mener un combat, on va pas se retrouver acculé au final. On va avoir un petit jeu d'escarmouche où voilà, ben, on va perdre l'armée qu'on a levée pendant 2-3 tours. Et on se dit, bah, c'est pas grave, voilà, j'ai perdu mes jetons, mais j'ai toujours la possibilité de me refaire, entre guillemets. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été travaillé lors de la mécanique pour dire, juste pas faire un jeu d'affrontement où tu vas monter une immense armée pendant une dizaine de tours pour finir dans un combat épique final et,
Oui, bah, c'était la volonté de Max. Donc au départ, c'est de retranscrire un RTS en jeu de société, un RTS, le jeu vidéo genre Warcraft et tout ça, voilà, Starcraft. Et bah, dans ce genre de jeu-là, tu as déjà inhérent ce genre de choses, c'est-à-dire que tu construis des grosses armées, ça te prend un certain temps, tu les envoies, puis elles se font battre, t'en reconstruis d'autres. C'est une partie qui a des rebondissements, qui se passe des choses, c'est pas effectivement quelque chose qui grimpe jusqu'à une apothéose finale. Il se passe des choses diverses et variées, si tu joues à 3 ou 4 à Meeple-Loire, moins à 2, parce que ben, là t'es un contre un, donc... Tu vas avoir des alliances temporaires qui se forment, il va se passer, tu vois. Il y a un coup de théâtre, quoi.
Oui, moi j'ai subi deux adversaires qui étaient à ma droite et à ma gauche, qui sont bien ligués contre moi, quoi.
Alors c'est une des parties des gameplay que j'aime bien, c'est que c'est des jeux de pleureuses. Tu vois, mais non, c'est pas moi qui faut taper. Enfin.
Un petit clin d'œil à Flavien hein, qui a subi lors de notre partie Weekend Proxy jeu.
Ah, Flavien qui est une pleureuse, c'est ça que tu veux dire. Je note.
Tu parlais avant de RTS, donc comme Starcraft, Warcraft. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que moi, j'étais un gros joueur de Starcraft 1 et Starcraft 2. Et on retrouve en fait la mécanique du build order, en fait, du choix des bâtiments qui permet d'orienter sa stratégie. Et c'est typiquement vraiment quelque chose qu'on ressent. Donc, si on est joueur de ce type de jeu... Et je trouve qu'il ressemble encore plus à Starcraft ou Warcraft plutôt qu'à Age of Empires où là on a une panoplie de bâtiments qui est assez énorme. Là on va se concentrer autour des trois bâtiments en fait, qu'on va choisir et ça permet d'orienter sa stratégie sur soit de l'attaque, grosse attaque frontale, masse production attaque frontale ou des coups un petit peu plus subtils avec le lâcher de Meeple sur le champ de bataille.
C'est finalement il a essayé de prendre la quintessence de ce style de jeu qui est vraiment sur le fait que alors dans les jeux vidéo tu as aussi la notion de ressources en plus de la notion de temps, donc là il a juste réduit ça à la notion de temps, mais il va falloir du temps pour construire les bâtiments, après du temps pour produire les unités ou pour avoir les pouvoirs en question, donc ça en fait des jeux de timing. Pas tellement une course au développement parce que très vite bah, tu as ton nombre de bâtiments qui est limité. Donc là dans Meeple-Loire il est limité à 4. Tu vas pouvoir en changer, tu vas pouvoir changer de choses, mais à un instant T tu vas pas avoir un joueur qui a 10 bâtiments, un joueur qui en a 3. Celui qui en a 3 on sent qu'il est plus mal barré, tu vois. Là non. Tu vas souvent avoir le même nombre de bâtiments et ils sont différents, ils sont. Donc c'est ce qui va générer en fait sur ta gestion du timing et le fait que les terrains soient tous différents à chaque partie. Donc tu dois t'adapter à ça, le fait que chaque partie est différente. D'ailleurs souvent, les joueurs qui apprécient ce jeu, à la fin, ils te racontent leur partie. Ils te disent « oui, mais là, j'aurais dû faire ça, j'aurais... » Tu vois, ben, tu as vraiment raconté une histoire. Et ça, c'est... Voilà, ça te fait déjà un gameplay en soi, quoi.
Voilà, c'est une expérience comme tu recherches.
Voilà, exactement.
Avant, tu disais que tu essayes de faire des jeux qui sont accessibles à tout type de joueurs. Et c'est vrai qu'en jouant à Meeple-Loire avec des joueurs un peu novices et aussi avec des joueurs un peu plus experts, on peut voir que le jeu permet des stratégies entre guillemets simples pour des joueurs non avertis où ils vont produire beaucoup pour envoyer leur masse de Meeple sur le champ de bataille. Et les joueurs qui sont un petit peu plus avertis, ils vont essayer de chercher des bâtiments qui ont des pouvoirs un petit peu plus subtils pour venir faire un petit peu des combos, des attaques un peu sournoises. Et ça permet d'avoir aussi une stratégie avancée pour les joueurs un peu plus corps, on va dire.
Eh ben exactement, c'était déjà le cas dans Medieval, c'est-à-dire que tu peux le jouer à plusieurs niveaux. Tu peux vraiment... Il est accessible, donc tu vas pas avoir de problème de prise en main de la règle. Mais pas loin, je fais jouer des gamins de 8-9 ans hein, qui captent ça. Moi, j'ai une famille d'amis, là. Leur gamin de... Ils ont quel âge maintenant ? Ils ont joué, ils avaient 8 et 10 ans. On jouait, on expliquait le jeu à leurs parents derrière, tu vois. On fait c'est la prise en main et sans souci, quoi. T'as juste la première partie, tu apprends un peu les quelques icônes d'action qu'il fait. Mais enfin, il y en a une dizaine de différentes, c'est pas la mort non plus. Et j'espère qu'elles ont été suffisamment bien faites pour pouvoir les retenir. Donc, tu accèdes au jeu. Et puis après, tu le travailles comme tout autre type de jeu. Mais dès ta première partie, tu vas arriver à faire des choses et à avoir du plaisir. Et ta courbe d'apprentissage est plaisante, en fait. Ça fait pas partie de ces jeux, si tu prends un gros wargame ou comme ça, où tu vas normalement faire 3-4 parties, où ça va être un pensum, quoi, où tu vas apprendre le jeu à coup de cravache, quoi. Tu vois. Et puis une fois que tu l'as appris, là, tu vas pouvoir en profiter. Non, il faut que le jeu soit accessible, du coup que ta courbe d'apprentissage soit agréable, et que même si tu t'y penches pas, c'est-à-dire que tu interromps ta courbe d'apprentissage, tu fais une partie tous les 3-4 mois, tu vois, donc t'as pas de courbe d'apprentissage, toutes les 3-4 mois t'as oublié tout ça, mais dès ta première partie c'est plaisant. Donc après, si tu veux fouiller tu peux, mais c'est toi qui le gères. C'est pas le jeu qui te l'impose. Tu vois, c'est si le jeu il a pas à imposer à un joueur à être comme ci ou comme ça. Il faut que le jeu il s'adapte au type de joueur, et pour essayer de leur procurer à chacun une expérience à minima plaisante.
Il faut juste être dans le bon tempo avec Meeplewar.
Ouais, ouais. Ah oui, ça c'est un jeu de timing. Ouais. Ouais, ça. Oui, tu peux très bien. Il y a un côté très violent, par contre, c'est Meeple War, c'est pas pour rien, hein. Le mot War est important. Tu peux perdre en 5-6 tours, quoi, hein. Si t'as pas fait gaffe, et si t'as pas anticipé le timing, soudain t'as une armée de 6 ou 7 Meeple devant chez toi qui vient de détruire ton truc, c'est fini, quoi. Fallait le faire avant.
Faut bien placer ses forêts pour se protéger et pas ouvrir la voie. Alors, on peut imaginer que dans le développement du jeu, il y a 10 bâtiments hein, qu'on peut construire avec un certain nombre de pouvoirs. Est-ce que le choix de ces pouvoirs a été quelque chose de délicat et équilibré ?
Alors, l'équilibrage, c'est essentiellement beaucoup de tests. Voilà. Ce qui est plus difficile, c'est d'évaluer l'impact psychologique. C'est-à-dire que tu peux équilibrer un jeu de manière très fine en te basant, en faisant des tonnes de tests et en faisant même des stats si tu veux, tu vois, des trucs assez carrés, assez...
Des tableurs Excel et tout.
Oh là là, oui, tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Et tu vas avoir un jeu équilibré. Mais c'est pas le plus important en fait. Le jeu... on essaye quand même, nous, d'avoir des jeux équilibrés, hein, tant qu'à faire, pas déconner. Mais ce qui est important, c'est la sensation psychologique. Dans Meeple War, c'est peut-être quelque chose que... Ça va être une petite chose que je regrette, c'est que les premières parties, les joueurs se disent « Il y a des bâtiments qui sont vraiment beaucoup plus forts que les autres. » Et ça, c'est une sensation psychologique. C'est-à-dire qu'après, tu vas trouver des stratégies, des choses qui font que, ça s'équilibre pas mal, quoi. Alors, ça t'impose certains trucs, certes, mais globalement, là, si le léger déséquilibre serait plutôt en faveur du développement brutal, c'est-à-dire que tu ponds des hordes de meeple et tu vas à l'assaut, c'est probablement ce qui est le plus efficace. À peu de choses près. Du coup, on a mis des bâtiments comme la catapulte, comme des choses comme ça, qui ont l'air surpuissants comme ça, mais qui sinon, tu te fais rouler dessus, quoi.
Tu parlais d'impact psychologique, c'est vrai que des bâtiments comme la catapulte, ils peuvent être très opportunistes, mais seulement dans certaines situations, et ils peuvent créer un dégât important, mais c'est dû à la situation en fait sur le terrain, et ça a peut-être un impact psychologique qui est plus fort que venir voir avoir une armée qui avance tout d'un coup sur ces bâtiments.
Ben parce que tu as le côté... tu construis... L'être humain est ainsi fait que quand tu construis des choses, tu y poses une charge émotionnelle. Voilà, Agricola, tu as construit ta ferme, tu as fait des trucs, tu es content. À Talouva, à la fin, tu as créé un continent. D'ailleurs, ça a de la gueule souvent. Parti d'Agricola, à la fin, de Talouva, à la fin, tu regardes le truc, tu dis putain, ça a de la gueule ce qu'on a fait. Ben là, tu as construit des meeples. Et tu vas les envoyer au carton, ils vont se faire massacrer. Tu dis ah ben non, quand même. Alors qu'il faut pas du tout s'attacher sentimentalement à ces meeples, hein.
Ouais, mais il y a du développement durable. Tu détruis des bâtiments, mais tu découvres des forêts, donc c'est bon.
Voilà. Déjà, c'est un jeu écologique. Il y a le recyclage. Il y a une action de recyclage, donc ça va. Quand même.
Est-ce que vous avez déjà réfléchi à une éventuelle extension pour Meeple-Loire avec un certain nombre de bâtiments ou de pouvoirs que vous avez écartés lors du développement initial ?
Alors, pas qu'on a écarté. Enfin, s'il y en a certains. Si, remarque, si, on les a écartés parce qu'on voulait pas complexifier le jeu au départ pour. En rajoutant ça, il y avait. Des bâtiments qui étaient communs à tout le monde. C'est-à-dire que tu avais 4 bâtiments qui permettaient de te singulariser par rapport aux autres et que tout le monde pouvait choisir, en fait. Que tu payais en quelque sorte plutôt qu'en temps, que tu payais en meeple construit. Donc ce qui revient même, parce que pour construire des meeples, il faut du temps. Donc, voilà. Mais bon, il y a ça qu'on va sûrement rajouter si jamais on fait cette extension. Ce qu'on espère bien, mais ça dépend. Une extension, en gros, pour qu'elle soit viable, il faut qu'elle atteigne... déjà, pour que tu puisses la produire, il faut la produire un certain nombre d'exemplaires, parce que voilà, si tu en fais 200, c'est prohibitif. Donc c'est plutôt 2000 qu'il faut en faire. Et pour en faire 2000, il faut que ça corresponde à peu près à 20-25%... du nombre de jeux de base qui ont déjà été vendus. Donc voilà, si ça marche, continue à bien marcher, oui, on fera une extension, sinon non. Mais on y travaille. Parce qu'on veut être prêt au moment où ça pourrait arriver.
Et ça marche bien alors Meeple-Loire, ça se vend bien ?
Eh ben écoute, on a écoulé le premier tirage.
Là, le deuxième tirage. Qui était à combien ?
Ah moi je fais des petits tirages, je fais des tirages à 3000. Donc là, j'ai refait un tirage à 3000 qui arrive cette semaine. Donc oui, on va dire le premier tirage en 2 mois, un peu plus de 2 mois, c'est pas si pire, hein, voilà. Donc on est content, effectivement. Et voilà, on verra si ça continue.
Tu parlais aussi d'accessibilité et l'accessibilité en termes de prix. Parce que les jeux Blue Cocker, ils sont tous à moins de 30 euros. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est important de limiter le prix final boutique d'un jeu ?
Alors de le limiter, disons qu'il soit, qu'il rende le jeu accessible. Effectivement, si tu regardes mes boîtes, c'est des boîtes bien pleines, mais et pas trop grosses et pas super chères. Économiquement, c'est peut-être une connerie, mais effectivement, ça fait partie des choses qui font que de temps en temps, au salon, il y a des gens qui disent eh « Ouais, super, autant de matos et de trucs pour 30 euros, c'est cool, quoi. » Donc, je les comprends, hein. Moi, j'ai pas tant de sous que ça pour acheter des jeux, hein, tu vois, je me paye pas des sommes folles, donc je suis comme eux. Donc, j'aimerais pouvoir acheter les jeux que je fais, quoi, tu vois. Donc, pour le moment... Donc quand j'aurai conquis le monde, là, je ferai des jeux super chers, quoi. Forcément. Voilà.
C'est vrai que de nos jours, le prix des jeux a tendance à grimper. Hein. On en a déjà un petit peu parlé en début de cette interview. Est-ce que c'est l'abondance des Kickstarter qui vient dérégler un petit peu le marché ou qui participe à l'inflation, au final, du prix sur les jeux ?
Alors, on peut dire oui, peut-être. C'est pas forcément... des jeux, il en faut pour tous les goûts. Pourquoi ne pas faire des jeux avec beaucoup de matériel qui sont très chers et très luxueux Moi, le problème que je vois sur pas mal de Kickstarter, c'est que ça s'arrête souvent là. C'est-à-dire que tu rajoutes du matériel en qualité, en nombre, pour avoir des stretch goals. Mais par contre, en développement, des fois, tu vois, c'est peut-être mieux avoir un stretch goal de développement ou... Parce que souvent, c'est malheureusement comme ça que tu reconnais un KS, quoi. Tu ouvres la boîte, il y a profusion de matériel. Déjà, tu te méfies un peu. Et après, tu joues au jeu et tu vois que mécaniquement, s'il avait été travaillé quelques mois de plus, finalement, t'es mieux, quoi. Donc bon, ça, c'est peut-être un des défauts inhérents au KS, quel que soit, que ce soit un petit éditeur, un mec qui s'auto-édite ou quoi. C'est inhérent Moi, je pense que le jeu, tu devrais l'amener en KS quand il est vraiment totalement développé mécaniquement, quoi, tu vois. Et même, normalement, tu devrais l'amener en KS quand il est terminé, en fait. Tu vois, graphiquement, tout, enfin, t'as tout fait, quoi. Et t'as imaginé tes Trail Gold, et t'as vraiment... il est fini, t'as juste pas les moyens de le produire, ou tu veux en faire une campagne de promotion de manière différente, ou quoi, ou qu'est-ce. Enfin, après, maintenant... Tout le monde fait des KS, hein, même des gens qui n'ont pas des besoins financiers de le faire, donc ils le font pour d'autres raisons. Mais quand même, ils devraient l'avoir vraiment terminé avant de le lancer, quoi. Parce que... je sais pas, après...
Et c'est quelque chose que tu as déjà envisagé, ou peut-être pour le futur, d'utiliser les plateformes participatives pour faire du développement d'un jeu ?
Pourquoi pas, si le projet s'y prête. Tu vois, tu peux faire des projets où vraiment tu sens que le jeu est bon, mais qu'il a un public qui va être assez... Voilà, vraiment une niche. Bah, le public de niche, tu préfères lui demander avant, quoi. Tu vois, parce que si t'en fais 2000 et que finalement c'était une niche à 500, c'est un peu dommage. Donc en ça, KS reste toujours un instrument très bien. Après, en termes de communication et de lancer, il peut y avoir aussi des jeux qui nécessitent une communauté, tu vois. Donc tu commences à la créer via KS. Il peut y avoir plusieurs raisons de le faire. Et probablement qu'un jour, je m'y essaierai. Bien que ça devient... quand je dis « je m'y essaierai », maintenant tu fais de moins en moins un KS tout seul, quoi. C'est devenu un métier c'est devenu un moyen qui implique de nombreux métiers. Tu t'improvises pas community manager pour les US et la France, parce que déjà si tu fais ça tu dors jamais dans la journée, parce que tu vois, tu as le décalage horaire. C'est devenu quelque chose qui demande une compétence de plusieurs personnes différentes. Voilà, il y a des gens dont c'est le métier maintenant de lancer les KS.
Ouais, parce qu'on dit ça te permet de faire du buzz, mais en fait il faut que tu le fasses toi-même. Ceux qui ont dit que c'est faut que tu le fasses toi-même ton buzz, faut que tu le fasses, faut le lancer, faut en parler tous les jours sur les médias sociaux pour que ça fasse un buzz et que ensuite tu récoltes des sous.
Faut qu'il y ait un effet boule de neige, en fait.
Ouais, tout à fait. Mais donc ça, c'est un métier aussi, ça se fait pas comme ça. Finalement, maintenant, si tu veux le faire bien, demande à Fred Henry combien il a investi avant dans ses KS, c'est énorme. Ça te coûte plus cher de faire un KS que de faire une édition normale. Si tu t'arrêtes avant la prod, quoi, c'est-à-dire que c'est sûr, si tu comptes la prod, vu que la prod est payée par le KS, ça marche pas. Mais en amont, en termes de promotion, de payer un community manager, de faire d'ici, de faire ça, c'est des choses que tu ferais pas en édition normale et qui donc te coûtent plus cher. Donc.
Et des fois, il y a aussi tout un travail de développement et d'illustration qui est fait sur les stretch goals sans qu'on ait la certitude qu'ils voient le jour au final. Hein. Donc ça aussi, c'est un risque un peu supplémentaire.
Ça, moi, normalement, tu fais ce boulot-là. Bon, sauf si c'est... tu vas rajouter une tuile ou deux, que tu l'es pas encore totalement fait faire graphiquement. Bon, pourquoi pas. Mais globalement, déjà, tout ton projet de base doit être fait. Et puis, tes stretch goals, qui peuvent être importants. Quand il y a souvent de la figurine, le sculpteur il n'a pas encore bossé, hein, forcément. Hein, tu as souvent une image du truc. Donc là-dessus, tu maîtrises plus tes délais. Derrière, tu commences sur des jeux avec figurines. Pourquoi il y en a plein là qui sont à la bourre? Parce que ben, il n'y a pas tant de ça d'usines dans le monde qui font de la figurine. Surtout qu'elles sont toutes en Chine, donc voilà. Et voilà, le mec qui te dit bon ben finalement moi j'ai eu une super caisse qui marche, puis il y en a eu un deuxième, puis un troisième. Le mec qui dit ça commence à faire plusieurs millions de figurines, hein, les gars, vous êtes gentils, mais ils bossent bien les Chinois, mais il y a des limites à tout, quoi, tu vois. Donc bon,
faut faire des figurines en bois sinon.
Oui, ça s'appelle des meeples.
Voilà, mais oui, voilà.
Et après, on fera une guerre avec des meeples.
Même ça, mes meeples, j'ai pas pu les faire en Europe, tu vois. Parce qu'ils avaient des formes qui nécessitent une découpe laser et que en Europe, pour le moment, il y a de la manutention autour et tout ça, et donc ils le font pas, juste.
D'ailleurs, il y avait un commentaire de Tom Vassell sur la forme des meeples. Est-ce que tu penses aussi que c'est les bleus qui ont gagné la guerre des meeples, puisque c'est devenu la forme officielle des meeples dans les jeux ?
Bien sûr. Le bleu, c'est forcément mieux que le reste. Hein ?
Comme genre un cocker, quoi.
Ben oui, voilà. Soyons objectifs un peu. Voilà.
Dans un des commentaires que tu avais fait sur notre site, tu as évoqué une potentielle édition de luxe. C'est celle qui était présentée à Cannes, enfin une édition augmentée, on va dire.
Surdimensionnée, ouais. Si le jeu marche bien, surtout à l'export, vu qu'on a, nous, on a eu quelques demandes en France, on essaiera de faire quelques centaines d'exemplaires de l'édition surdimensionnée. Mais il faut en faire au moins 300 ou 500. Donc ça veut dire que tu le vends dans le monde entier, quoi. Tu vois, il n'y a pas 300 Français qui vont dire « Hey, je vais prendre une édition deux fois plus grande », parce que déjà, il faut une table deux fois plus grande. Donc c'est pas tout d'acheter le jeu, mais il faut acheter la maison qui va avec, tu vois, la table qui va avec. Donc bon, au bout d'un moment, ça fait cher quand même. Donc tu peux pas le lancer que pour la France. Donc s'il a une vie internationale et si cette vie internationale se passe bien, ben là par contre je ferai probablement un KS ou assimilé, parce que peut-être je vais faire ça directement en précommande tout seul comme un grand, quoi. Mais t'as pas besoin de filer des sous à KS tout le temps non plus, tu vois, c'est pas obligatoire, pour voir si il y a dans le monde entier 300 ou 500 personnes qui sont intéressées par une édition géante. Mais du coup, voilà, moi j'ai déjà l'édition géante, elle existe déjà. Donc tu leur demandes juste une précommande, tu lances la prod, et là, c'est pas un KS qui va mettre deux ans, quoi. C'est un truc où c'est déjà tout fait, tu leur dis une édition comme ça, t'en veux ou pas ? Voilà, point, quoi.
Alors, est-ce qu'on pourra te rencontrer sur les prochains événements ou les différents festivals ludiques qui se passent en France dans les prochains temps ?
Je sais pas, t'as des croquettes ?
Ouais, on en a un petit peu pour appâter le cocker.
Alors voilà, pas de problème alors.
Ouais, est-ce que tu vas au Flip par exemple ?
Alors non, le Flip, y a un autre événement hyper important pendant le Flip qui s'appelle Mes Vacances. Donc désolé.
Ah, tu prends aussi des vacances ?
Oui, il faut, pour avoir le poil soyeux et tout ça, tu vois, il faut. Ça se travaille.
Ah d'accord, c'est pas que les croquettes. Hein. Oui.
Ah, la question que je pense se pose tous les auditeurs, est-ce que tu as un cocker ?
Alors, je n'ai jamais eu que des cockers dans ma vie, effectivement. Là, actuellement, je vis en appartement, donc ce serait dommage pour ce pauvre chien. C'est des chiens, au départ, c'est des chiens de chasse, tu vois, donc ils ont besoin de se balader, de se dépenser et tout ça. Donc si en appartement, si tu le fais sortir trois fois par jour, c'est plus une prison pour lui. Donc quand j'aurai conquis le monde et que j'aurai donc le monde à ma portée, j'aurai une horde de cockers qui me suivra partout, promis, dont des bleus, parce que le cocker bleu existe. Bon, il est bleu nuit, hein, c'est bleu noir, mais ça existe vraiment.
On aura appris quelque chose chez Proxy Jeux sur la nature.
Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose?
Waf.
Alors je vais pas dire miaou, sinon tu vas me sauter dessus, hein, c'est ça.
Ok, bah merci d'avoir accepté de t'exprimer à notre micro. On va te libérer pour que les joueurs puissent caresser ton poil soyeux de cocker. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Et d'ici là,
jouez bien.